La psychiatre Marie-Ève Coton, en fin de semaine, a fait un statut de réaction à cette enquête de la presse, enquête qui a poussé Marie-Pierre Morin à aller à Tout le monde en parle hier. Elle est au bout du fil. Docteur Coton, bonsoir.
Bonsoir, Patrick.
Donc, écoutez, vous avez réagi sur Facebook. Vous avez notamment dit, écoutez, il y a plusieurs points que je veux aborder avec vous. D'abord, comment vous réagissez quand Marie-Pierre Morin met beaucoup d'emphase sur son alcoolisme pour expliquer ses dérapages?
Oui, ça, je pense qu'il y a des nuances à apporter parce que chaque cas, je dirais, dans l'espace public de relié à des problématiques de bisexuels donne l'occasion de faire les connaissances, la compréhension de ça progressent. Donc, je trouve que c'est bien d'utiliser ces exemples-là pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur. Et puis, effectivement, l'alcool, c'est sûr que l'alcool va avoir une influence sur le comportement. L'alcool, ça désinhibe les gens. L'alcool, ça amplifie les émotions. Donc, ça va avoir des conséquences sur comment les gens se comportent et comment ils sont en relation. Sauf que c'est sûr que l'alcool, c'est pas non plus quelque chose qui va justifier les agressions ou qui va amener par exemple, quelqu'un qui a pas de problématique, qui a pas du tout de préjugés racistes, va pas nécessairement en avoir sous le coup de l'alcool. Tu sais. Alors, faut quand même distinguer où je pense que c'est très, très souhaitable et c'est très bien que les gens entendent actuellement que les problèmes d'alcool, ça peut évidemment aggraver des choses. Parce qu'on se retient tous hein, dans la vie, on a tous des inhibitions parce qu'on peut pas dire tout ce qu'on pense. Ce serait impossible de vivre en société comme ça. Et l'alcool va lever ces inhibitions-là, donc ça va amener plein de conflits davantage, etc. Mais je pense qu'il faut quand même, par rapport à l'alcool, en tout cas nous, dans les approches thérapeutiques par rapport aux gens, on est beaucoup dans la responsabilisation. Le processus thérapeutique, c'est de dire il faut prendre la responsabilité de notre consommation et de comment on se comporte en état de consommation, parce que ce n'est pas une justification de préjugés ou d'agression, etc. Ça, je trouve que c'est une nuance qui est importante. Ceci dit, prendre soin de son problème de consommation et d'aller chercher de l'aide pour ça, c'est tout à fait souhaitable et c'est tout à fait correct que les gens soient exposés à ça. Je pense que c'est une très bonne décision de le faire.
J'ai expliqué aux auditeurs tantôt à quel point il y a des messages qui circulent. On m'en envoie, je les vois sur les médias sociaux, des gens qui disent, écoutez, elle a le droit à une deuxième chance, elle a le droit de revenir. Puis ce que je déduis, Dr Coton, là, c'est qu'il y a un marché, disons, qui est prêt à l'accueillir. Et vous, ce que vous dites, c'est que, on va s'entendre, là, Marie-Pierre Morin, c'est une belle femme, elle correspond à des critères de beauté très répandus. Et ce que vous dites, c'est que c'est pas étranger au fait qu'il y a beaucoup de sympathie à son égard.
Oui, moi, j'ai fait des recherches pour préparer une chronique de radio sur l'impact de la beauté à plein de niveaux dans la vie. Et j'étais sidérée de voir les résultats, à savoir à quel point ça va changer des choses dans la réaction sociale que les gens ont par rapport à une personne. Par exemple, les études démontrent que les sentences judiciaires des personnes qui ont de très belles apparences à crime égal, si vous voulez, là, sont moins sévères pour les personnes de belle apparence et sont plus sévères pour les personnes qui ont des physiques ingrats. Les professeurs à performance égale vont coter des étudiants qui ont des physiques avantageux de façon supérieure. Si on envoie des CV pour des demandes d'application d'emploi, il y a une photo qui est mise avec le CV, l'apparence physique de la personne va avoir un impact sur est-ce qu'elle va être prise ou non. Donc, l'idée, c'est pas ces enjeux-là, je trouve, l'impact de la beauté, la discrimination que les gens avec des physiques ingrats vivent et, si vous voulez, les privilèges que ça peut amener pour les personnes qui ont des physiques très avantageux, je trouve que c'est pas assez discuté dans la société, c'est pas assez connu parce que c'est des enjeux de discrimination également, comme les autres facteurs, comme l'orientation sexuelle, comme est-ce qu'on est fait partie d'une minorité visible ou pas. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça donnait une occasion de réfléchir à ces enjeux-là au niveau sociologique.
Il y a plein de gens qui nous ont écrit, tantôt on en a parlé plus tôt, qui m'ont écrit à moi, qui m'ont écrit à d'autres, qui disent « Elle est belle et vous êtes jaloux ».
Oui.
Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par ce préjugé favorable qu'on a dans notre œil par rapport à quelqu'un qui est accusé, qui est sur la place publique critiqué comme ça pour des gestes d'inconduite. Et parce que la personne est belle, ben on y en passe un peu plus.
En fait, c'est que les gens beaux, ce qu'on s'est aperçu dans les études, c'est que l'espèce de biais cognitif qu'on a, c'est qu'on a l'impression que quand les gens sont beaux, ils sont sympathiques. Le cerveau fait une espèce d'association de dire ça doit être des personnes sympathiques. Et pour les personnes qui ont des physiques ingrats, ça donne l'impression que c'est des gens moins aimables. Et effectivement, Marie-Pierre Morin, avec le physique qu'elle a, est-ce que c'est quelqu'un qui peut induire de l'envie dans la vie? C'est certain qu'elle peut induire de l'envie, sauf qu'en même temps, de réduire la réaction des gens, soit qui ont mentionné les agressions, à des enjeux d'envie, ou le fait qu'on parle de ces enjeux-là où on n'est pas d'accord avec nécessairement son retour à ce stade-ci, mettons qu'on le trouve trop précoce, mais je trouve que c'est une façon de discréditer les gens qui ont ce discours-là, qui est souvent quelque chose qu'on projette aussi sur les victimes qui dénoncent. On va souvent dire, ah ben c'est ça, la célébrité que tu dénonces, tu es envieuse d'elle. Dans tout ce qui a défilé sur les réseaux sociaux auprès de Safia Nolin, qui avait fait la première plainte, il y a eu beaucoup de ça. Elle est envieuse de Marie-Pierre Morin, c'est pour ça qu'elle fait une dénonciation. Donc, c'est comme si les victimes ou les gens qui les défendent, si vous voulez, sont discrédités en disant votre motivation pour faire ça ne peut être que de l'envie. Je trouve aussi que c'est une espèce un peu candide parce que ça suppose que tout le monde envie Marie-Pierre Morin. Tu sais, l'envie, c'est la personne que tu vois, tu voudrais avoir des choses qu'elle a ou tu voudrais être ce qu'elle est puis tu peux pas l'avoir. Et je trouve que c'est un peu candide de penser que certainement que Marie-Pierre Morin, avec son talent, avec son apparence, elle a suscité de l'envie dans sa vie, c'est clair. Mais est-ce qu'elle suscite ça chez tout le monde? Est-ce que c'est ça la motivation principale de ceux qui critiquent actuellement son retour ou pas du tout? Et ça, je pense que c'est plus une espèce de quelque chose qu'on utilise beaucoup pour bâillonner les victimes en leur disant ben ça ne peut être que par envie que tu portes cette plainte ou que tu dénonces, etc.
Dernière question, Dr Coton. Vous soulevez un point intéressant. Il y a beaucoup des histoires d'inconduite, de MeToo, etc., qui étaient centrées sur des hommes qui abusaient de leur pouvoir, qui avaient les mains baladeuses et ou plus. Là, dans le cas qui nous intéresse, Marie-Pierre Morin, c'est une femme. Si Marie-Pierre Morin, pour les mêmes faits, s'appelait Martin Morin, est-ce qu'on serait en train d'avoir, vous et moi, cette discussion-là?
Je ne crois pas, non. Donc, tout à fait. Je ne pense pas non plus qu'actuellement, on donnerait nécessairement un premier rôle au cinéma à M. Salvaille.
Mais on pourrait vous répondre, Dr Coton, que M. Salvaille, il y a eu un procès criminel.
C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que la différence est au-delà de ça, parce que ce qui est intéressant, je trouve qu'il y a on a des préjugés à deux égards, les hommes victimes et les femmes agresseurs, parce qu'on n'est pas habitués. Parce que la grande majorité des agresseurs, pas juste qui est sorti dans le MeToo, sont des hommes. 97% des agresseurs sexuels, plus ou moins, là, selon les études, sont des hommes. Et 80% des victimes sont des femmes. Donc, ce qui était beaucoup dans le procès Salvaille, on a découvert qu'un homme pouvait être victime parce que les préjugés qui sortaient dans son procès, c'était de dire, voyons, une de ces victimes, c'est un colosse de 6 pieds quelque chose. Comment est-ce qu'il peut avoir peur, tu sais, devant Éric Salvaille? Et ça a donné lieu à beaucoup d'éducation, justement, à ce moment-là, de dire, bien, c'est des enjeux d'un rapport de pouvoir, la taille, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est qui a le pouvoir, qui peut faire mal à qui par son pouvoir économique, son pouvoir de situation. Et là, dans le cas de Marie-Pierre Morin, je trouve que maintenant le préjugé qu'on a, c'est de dire les femmes, comme elles sont beaucoup moins souvent dans des positions d'agression, est-ce qu'elles peuvent vraiment avoir dans leur façon d'être vraiment un rapport si dominateur, si avoir une dynamique prédatrice elles aussi? Et c'est comme si, je pense, autant on minimisait la souffrance et la vulnérabilité des hommes victimes, je pense autant aussi on sous-estime la capacité de domination des femmes agresseurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent, donc il ne faut pas garder de ça l'idée que, tu sais, mais par contre, ça existe. Et quand ça existe, ben les dynamiques de domination sont les mêmes que chez les hommes agresseurs, c'est les mêmes enjeux qu'il faut travailler avec eux. Moi, j'en ai soigné les agresseurs.
Très intéressant.
Évidemment, beaucoup plus d'hommes.
Faut que j'arrête, Dr Coton, mais merci beaucoup de nous avoir éclairé ce soir. Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.